6h03, vendredi 23 avril. Bonne journée et bienvenue au 98.5, la fin de semaine qui arrive, avec quand même d'excellentes nouvelles au chapitre de la météo. D'abord aujourd'hui, ce matin, c'est un ciel dégagé, c'est pas très chaud, c'est autour de 1 degré. On prévoit un maximum de 13 aujourd'hui, avec soleil et nuages en alternance. Bonne nouvelle donc. Demain samedi, ben là, c'est une superbe journée, 19-20 degrés avec du soleil. Et dimanche, ben, on prévoit du temps plus gris, 15 degrés, possiblement des averses, mais disons que les prévisions en termes de quantité ont été revues à la baisse. On parle de quelques millimètres de pluie. Et quand on revient lundi, ben, on aura du soleil autour de 11 degrés. Je vais essayer de garder ça simple ce matin parce qu'il y a beaucoup d'informations concernant la vaccination, des gens qui se posent énormément de questions, les vols qui ont été suspendus, vols de l'Inde, du Pakistan, vers le Canada ou encore vers ces pays en provenance du Canada. D'abord, ce qu'il faut savoir pour la vaccination, c'est que les gens qui ont une maladie chronique, et là, pas ceux et celles qui ont des traitements à l'hôpital, mais dès que vous avez une maladie chronique, vous pouvez aller vous faire vacciner. Et on se fie sur la bonne foi des gens. On ne vous demandera pas de produire un rapport médical ou une note d'un médecin, là. Vous avez le droit de vous inscrire et de vous faire vacciner. Puis c'est important que vous soyez vacciné parce que vous faites partie des gens qui sont à risque de complications si vous avez la COVID. Et je trouve que c'est une maudite bonne approche du gouvernement, même s'il y aura toujours des individus qui profitent du système, qui veulent être vaccinés très, très rapidement. Puis bon. Mais c'est moins lourd, c'est plus efficace. Puis on le sait, l'objectif, c'est de vacciner le plus de gens possible. Donc, les gens qui ont des maladies chroniques, c'est à partir d'aujourd'hui pour ce qui est des prises de rendez-vous. Maintenant, pour les gens qui ont un handicap intellectuel, c'est dans une semaine. Et encore là, on va ouvrir ça, puis il n'y aura pas de multiples contrôles. Et je pense que c'est important aussi que... Et combien de parents de ces jeunes adultes m'ont écrit dans les dernières semaines en disant on pense que c'est important d'être vacciné. Ça, c'est la première information qui est, je dirais, de base. La deuxième, ça concerne le niveau de vaccination au Québec. Les cibles sont atteintes ou en voie de l'être dans les catégories d'âge. Alors, si vous prenez les gens qui ont 60 ans et plus au Québec, si on calcule la première dose puis les rendez-vous qui ont été planifiés jusqu'à maintenant, on peut dire que les cibles sont atteintes. Plus vite on touche à l'objectif, bien, on est capable d'élargir la vaccination, ce qui fait qu'on le voit, par exemple, avec AstraZeneca, qu'on fournit 100 rendez-vous, puis on voit l'élargissement. Le premier ministre Trudeau et sa conjointe vont être vaccinés aujourd'hui. Les deux n'ont pas 50 ans, donc ils vont recevoir le vaccin AstraZeneca. Puis ultimement, on va arriver à une vaccination plus générale, dit-on, dans quelques semaines au Québec. Et pourquoi c'est important? Je le disais au début de l'émission tantôt. Dans The Gazette, on a parlé à des spécialistes pour essayer de se dire, s'encourager un peu, à quel moment, selon les expériences qu'on voit dans d'autres pays, on peut penser retourner à une certaine vie normale. Deux pays sont cités en exemple. Israël, où on a vacciné massivement. Grande-Bretagne, où on a vacciné massivement. Quand vous regardez les chiffres, par exemple, dans le cas d'Israël, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est passé de 10 000 cas là, au sommet, là, au pire de la crise, par jour de cas positifs, à peu près 140. Ce qui fait qu'actuellement, 55 % de la population adulte d'Israël a été vaccinée. Et quand vous ajoutez les gens qui ont eu la maladie, qui ont été infectés, bien, on atteint à peu près 60 %. Et déjà avec le 60 %, on est capable de permettre un certain nombre de libertés, de retrouver un certain nombre de libertés, gym, resto, commerce, etc. Il y a tout le débat sur le passeport vaccinal que le ministre Christian Dubé avait un peu lancé en point de presse. Puis après ça, on a senti que ça soulevait des objections, puis les gens étaient bien inquiets, le droit à la vie privée. Sauf que, je ne sais pas comment l'appeler, mais une preuve de vaccination partout dans le monde donne certains privilèges. Et parfois, c'est aussi mineur que d'aller voir un match de baseball. Il y a des sections pour les gens qui ont reçu les deux doses. Quand vous allez prouver que vous êtes doublement vacciné, je pense que c'est à Los Angeles, mais en tout cas, c'est au baseball, vous avez accès à une section. C'est quand même disons, un aspect peut-être à considérer. Alors, je reviens à ça. Grande-Bretagne aussi, on a vacciné quand même pas mal et on se retrouve avec 50 % des gens qui ont reçu au moins une dose, 10 % deux doses. Alors, tu te dis, au Québec, quand on sera dans ces niveaux de vaccination, est-ce qu'on peut penser qu'on va pouvoir peut-être retrouver les terrasses, retrouver nos gyms, bref, une certaine normalité? Ça ne sera jamais à 100 %. Point d'interrogation, ça tourne autour des variants. Parce que les variants, on le sait, ont de multiples formes. Il y en a de toutes les provenances, que ce soit du Brésil, de l'Inde. Puis quand on dit, quand on identifie un pays, on sait très bien que ce variant, le Dr Weiss le disait hier matin, est peut-être originaire de, mais a transité ailleurs avant d'arriver ici. Et c'est ça, la caractéristique des variants, c'est de se transformer. Il y en a beaucoup et il y en aura beaucoup. Tous les experts s'entendent pour dire que cette réalité des variants va devenir un enjeu important. Puis les mesures prises par la santé publique, c'est d'être hyper agressif. Dès qu'on a des cas, on ferme. On n'est pas en train d'attendre que peut-être on verra si c'est bien ça. Parce qu'on sait que c'est la tendance, c'est-à-dire différents variants qui sont quand même, découverts. Alors, c'est important de garder ça à l'esprit, toujours dans le respect donc des consignes et des mesures sanitaires, tout en ayant en parallèle une campagne de vaccination qui est agressive là, puis qui est efficace. Arrive la question maintenant des vols. Hier, le fédéral, sous pression, a finalement annoncé des annulations, interdictions de vol des transporteurs en provenance de l'Inde et du Pakistan vers le Canada et l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on a découvert, évidemment, qu'il y a énormément de cas. Et ce qui est aussi extrêmement, je dirais, troublant dans ce qu'on a appris, c'est que, et je vous le disais hier matin, là, il y a plein de vols où on détecte des patients COVID. Et là, c'est bien difficile à comprendre. Là. Je sais qu'il y a des exceptions. Mais le gouvernement fédéral, au début de l'année, disait qu'un test négatif de la COVID serait exigé pour entrer au Canada. Donc, si tu n'as pas de test négatif, tu ne peux pas entrer. Alors, est-ce qu'on teste les gens? Est-ce qu'on demande une preuve de test avant qu'ils montent dans un avion? Deuxièmement, quelles sont les preuves de test une fois ici? Qu'est-ce qui arrive avec les gens qui passent? Parce qu'on sait qu'il y a des systèmes, c'est-à-dire de fraude, là, frontières terrestres. Ce matin, Radio-Canada nous dit que on a découvert une cinquantaine de tests négatifs frauduleux qui ont été interceptés aux frontières. Alors, tu dis, OK, mais là, c'est peu à la fois. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça, c'est ce qu'on a trouvé. Disons que c'est assez préoccupant. Puis j'ai beaucoup, beaucoup d'agents des services frontaliers qui m'écrivent et qui me disent, ouais, mais il y a une certaine passoire, là. Puis on n'est pas le pays le plus strict, peut-être en théorie, mais en pratique, là, les gens qui arrivent à contourner les mesures. Alors, tu dis, mais comment ça se fait qu'on est capable de prendre un avion vers le Canada et avoir à l'intérieur des gens qui sont COVID? Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de mesures. Je vais parler avec le ministre Duclos un peu plus tard. Puis quand on parle des variants, qui, je vous le dis, sont nombreux, là, il y a même un variant New York qui existe. Et on a fait des recherches. New York Times rapporte ce matin que, en tout cas, ça, c'est une nouvelle positive, que pour beaucoup des variants qui ont été testés jusqu'à maintenant, il semble que dans les deux cas, Pfizer et Moderna sont extrêmement efficaces pour prévenir des effets secondaires graves. Alors, ce sont des études indépendantes qui ont été faites. Encore trop tôt pour le dire concernant AstraZeneca. Et il y a le vaccin, pardon, de Johnson & Johnson. On pense qu'il sera autorisé aux États-Unis, mais avec encore là des restrictions compte tenu des rares cas, mais des cas quand même avec des gens qui ont eu des problèmes de cailloux et des problèmes de thrombose. On fait le tour de quelques autres nouvelles au sujet de la vaccination. D'abord, beaucoup de pharmaciens me disent, et hier, Québec a remercié les pharmaciens qui jouent un rôle clé là, dans l'opération de vaccination, juste dire au gouvernement qu'ils peuvent en faire pas mal plus. Beaucoup peuvent vacciner que 2 jours, 3 jours semaine, parce qu'ils n'ont pas de vaccin. Et plusieurs se sont fait dire que la semaine prochaine, entre autres, ce serait relativement tranquille. Donc, il y a une capacité de vaccination là, qui n'est pas utilisée à son maximum du côté des médecins. Je comprends qu'il y a une question aussi d'approvisionnement puis de stock. Mais on en reparlera tantôt avec le ministre Christian Dubé. La deuxième chose, c'est le tableau de vaccination des employés du réseau de la santé et des services sociaux. En gros, là, dans les centres de soins de longue durée, donc CHSLD, c'est 62 % des employés qui ont reçu au moins une dose du vaccin. C'est en date du 20 avril. Ça veut dire qu'en gros, là, tu as le tiers des employés qui l'ont pas reçu. Là, je ne sais pas si on a affaire à des employés qui n'ont pas de contact avec les patients, de gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner, des gens qui n'ont pas pu se faire vacciner, je ne le sais pas, là. Je ne peux pas mettre de catégorie. Je sais qu'il y a une bonne résistance de beaucoup d'employés du réseau de la santé, que ce soit dans le secteur public-privé, de se faire vacciner. La preuve, c'est que Québec dit « si tu ne me montres pas que tu es vacciné, je vais te tester ». Puis si tu veux pas te faire tester, ben je vais te réaffecter ailleurs. On dit qu'il y a un problème quelque part dans la vaccination des employés du réseau. Je sais qu'il y a quelques semaines, il y a beaucoup de gens qui voulaient se faire vacciner puis qui n'étaient pas admissibles, qui ne pouvaient pas l'être, pour qui c'était, disons, semble-t-il, compliqué. Mais on a un problème, là. Si le tiers des gens dans les centres de soins de longue durée ne veulent pas se faire vacciner, le tiers, c'est quand même pas mal de monde. Et avec le phénomène des variants qui existent, là, ça vient ajouter, disons, aux préoccupations. Et pour ce qui est des hôpitaux, on le voit, là, chaque jour, on a les chiffres. Est-ce que ça se stabilise? Je vais citer le docteur Amélie Boisclair, à qui on parlait hier. Il faut faire bien attention aux chiffres officiels, parce que quand on sort un patient des soins intensifs, il ne disparaît pas nécessairement. Et du transfert inter-établissement, puis unités qui débordent, surchargées, ça existe encore. La bonne nouvelle au Québec jusqu'à maintenant, c'est que c'est relativement stable. Et Montréal, encore là, j'allais dire, on va regarder les tendances parce qu'on sait que ça peut basculer vite, mais au moins jusqu'à maintenant, ça se passe quand même relativement bien. Puis je pense que les gens sont respectueux des consignes. Pas toujours agréable, pas toujours facile, on est tous pas mal tannés. Mais au moins, ça semble en tout cas donner des résultats, surtout quand tu regardes, par exemple, la situation en Ontario, même l'Alberta qui est devenu un peu l'épicentre maintenant du Canada. OK, dans les autres nouvelles ce matin, Québec va annoncer, c'est dans la presse, là, 220-quelques millions pour combattre la violence conjugale. Rappelons-nous que dans le budget, il y avait, des crédits qui avaient été prévus là, pour soutenir les refuges, les organismes qui aident les femmes victimes de violences conjugales. On sait que la demande est forte, qu'il n'y a pas assez de ressources. Puis Québec avait dit, ben, on en mettra au besoin. Mais là, on s'est rendu compte que la pression non seulement était forte, mais qu'il fallait, et je pense que c'est aussi le message qu'il faudrait entendre aujourd'hui, là, c'est pas juste d'annoncer des chiffres. Je répète, annoncer 200 millions sur 5 ans, c'est bien facile, ça. Le faire atterrir, c'est autre chose. Et donc, j'aimerais ça qu'on ait comme un échéancier. À quelle heure on va être capable de vraiment financer adéquatement les fameux refuges en question? À quelle heure ça va arriver? Là, on dit qu'il y a à peu près 10 000 cas qu'on est obligé de mettre en attente, pratiquement de refuser parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires. Donc, ça va être annoncé aujourd'hui. Le Collège des médecins, c'est sur le site de Radio-Canada, met en garde les professionnels de la santé sur la téléconsultation et rappelle à l'ordre les médecins de famille. Alors, trop de patients, dit le Collège des médecins, sont dirigés aux urgences sans même avoir été vus par leur médecin de famille. Alors, ce qu'on apprend donc, c'est que le regroupement des chefs d'urgence du Québec s'est exprimé sur la question depuis la mi-mars. Et je cite, « Nous observons un nombre important d'usagers référés à l'urgence qui n'ont même pas été examinés par leur médecin. Des gens qui ont des conditions mineures, non urgentes, et qui auraient pu être traités par leur médecin de famille. » et on les envoie à l'urgence. Ce qu'on entend, c'est que ça va faire réagir, c'est que depuis un an, des médecins de famille n'ont pas vu de patients ou très peu de patients, surtout au début de la crise, ça a recommencé, et préfèrent dire à un patient, attendons à l'urgence. Parce qu'on est en téléconsultation, puis tu ne peux pas faire des traitements en téléconsultation. Tu peux avoir un échange, tu peux diagnostiquer, tu peux peut-être faire une ordonnance, mais il y a des trucs qui nécessitent une présence physique. Alors, le Collège des médecins rappelle aux médecins de ne pas, se débarrasser des patients en les envoyant à la salle d'urgence. Également, il faut parler d'environnement. Hier, c'était le festival Lancan, un peu. D'ailleurs, c'est la caricature de Chapelou, là. Lancan des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Je voyais M. Biden qui dit faut réduire de 50 % les émissions. C'est très bien, c'est très joli, mais on sait que ça n'arrivera pas. Et Francis Weiss, ce matin, se dit, mais pourquoi, dans la presse, pourquoi on se fixe continuellement un objectif qui n'est pas atteignable? Pourquoi? Pourquoi on est en train de... Puis on le fait à Kyoto, on le fait à Paris, puis là, on a décidé de le refaire parce que le président américain dit, vous allez voir, nous, on va changer, là. On va planter des arbres, on va créer des forêts, on va réduire notre consommation d'énergie. Les véhicules électriques vont être, disons, plus présents. On va changer nos habitudes. Discours qu'on entend. Tant mieux, ça arrive. T'sais, on est passé d'un président qui niait les changements climatiques à un qui, en l'espace de quelques mois, dit « il faut faire des choses ». Parfait. Mais quand je vois Québec, quand je vois Ottawa, comprendrez qu'on demeure pas mal sceptique sur ces questions-là, parce que jusqu'à maintenant, ça ne s'est jamais fait. Vous dire aussi ce matin que le vin vendu chez les dépanneurs ou encore en épicerie, les vins québécois, il y aura une augmentation des prix. Pourquoi? La presse nous dit que le Canada a reçu une plainte de l'Australie, puis le Canada est obligé de faire une entente. C'est évidemment toute la notion du libre-échange. L'Australie trouvait qu'au Canada, au Québec, on favorisait les vins locaux. C'est une plainte déposée en 2018, ce qui fait qu'on ajoute des taxes. Les producteurs de vin du Québec qui en ont arraché, on a vu avec les changements de température, là, depuis 2016, pouvaient vendre directement leurs bouteilles dans les épiceries et les dépanneurs. Alors, les producteurs étrangers, eux, devaient passer par la SAQ, puis là, il y avait une augmentation de prix. Donc, ces frais additionnels n'étaient pas appliqués aux vins québécois. Alors, quelle sera la différence de prix à voir? Mais c'est sûr que ce que vous allez avoir comme produit, bien, ça va être classé, c'est à peu près le même niveau là, que des vins étrangers. Ça fait le tour de nos manchettes pour ce matin. Il est 6h22. Allons voir ce qui se passe sur la 40.